Bonjour à tous. Comment allez-vous? Alors, nous avons achevé la semaine dernière notre série sur Néhémie. Et vous en souvenez peut-être, on a terminé cette série avec une douche glacée après un magnifique feu d'artifice. Vous vous souvenez, tout semblait plutôt bien parti. Le peuple était revenu à la parole de Dieu. Il avait pris au sérieux la parole de Dieu. Il s'était repenti de ses fautes. Il s'était engagé envers Dieu. Et ça semblait maintenant merveilleux. Pourtant, Matthieu nous a rappelé la semaine dernière que le peuple a failli à chacun de ses engagements. Et la fin de Néhémie ressemble à une douche froide. Le peuple avait besoin d'un changement radical, mais d'un changement qui vienne de l'intérieur. Il avait besoin que ce soit la parole de Dieu qui vienne jusqu'à lui et que cette parole accomplisse le salut promis depuis tant d'années. Et en fait, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous allons entamer une nouvelle série qui va nous emmener pendant quelques mois. Alors, on aura quelques coupures sur des thèmes précis. Mais pendant quelques mois, nous allons suivre l'évangile de Luc. Et l'évangile de Luc nous raconte que Jésus vient accomplir le salut promis. Et vraiment, je voudrais prier pour que chacun d'entre nous puisse découvrir au travers de cette série Jésus et que notre foi soit enrichie et que nos vies soient transformées par ce que Jésus a accompli. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux quatre premiers versets de l'évangile de Luc. En fait, Luc introduit son évangile avec un court prologue. C'est juste quatre versets, mais en fait, ces versets vont nous accompagner pendant tout notre parcours jusqu'à la fin de l'évangile parce qu'ils nous dévoilent comment et surtout pourquoi Luc écrit cet évangile. Et c'est à la lumière de son intention que nous nous attacherons à comprendre tout le message que Dieu nous a adressé dans cet évangile. Et je vous propose d'ouvrir nos Bibles au chapitre 1er de l'évangile de Luc. Et je lis avec vous les quatre premiers versets. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé de toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Comme le dit Luc au premier verset, il n'est pas le premier à raconter l'évangile de Jésus-Christ. En fait, il n'est pas le premier à raconter ce qu'il appelle dans ce même verset les événements qui se sont accomplis parmi nous. Marc l'a précédé en écrivant un évangile. Luc partagera d'ailleurs la structure et le contenu de cet évangile. Il y a Matthieu aussi qui a rédigé un évangile et Luc va emprunter une part du contenu. En fait, mis ensemble, ces trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, sont souvent appelés les évangiles synoptiques. En fait, ça veut dire qu'ils ont une structure semblable, une structure qui est faite autour des mêmes événements et des mêmes enseignements de Jésus. Et vous pouvez voir le contraste avec Jean, qui a très peu en commun avec ses trois premiers évangiles. Mais il y avait aussi d'autres sources qui étaient à disposition de Luc, la tradition orale. À l'époque, les histoires, les discours de Jésus, les paraboles étaient répétées de l'un à l'autre et Luc va piocher dans cette connaissance orale. Et puis elles étaient aussi écrites et nous avons de bonnes raisons de penser qu'il circulait à ce moment-là des recueils des paroles de Jésus. Et en fait, Luc le dit lui-même, il n'est pas un témoin oculaire de ce qu'il raconte. Et même si on ne sait pas beaucoup de choses sur lui, son style littéraire, son utilisation de la Septante, qui était une traduction grecque de l'Ancien Testament, nous laisse penser qu'il était vraisemblablement grec, Paul nous apprend par ailleurs que c'était en fait un médecin. Ce que nous savons par contre de Luc, c'est qu'il a été très longtemps en contact avec des témoins oculaires de la vie de Jésus. Notamment avec Pierre, que nous allons retrouver avec Luc dans les premiers chapitres du livre des Actes. Et puis ensuite, il sera aussi un compagnon de Paul. Alors lui non plus n'a pas vécu auprès de Jésus, mais il avait deux choses qui étaient précieuses à apporter à Luc. La première, c'est que c'était un érudit de l'Ancien Testament. Il avait été un élève de Gamaliel et il avait eu une révélation spéciale de la part de Jésus-Christ. Mais finalement, pour que l'évangile de Luc soit fidèle, pour que l'on puisse s'appuyer dessus, pour que ce soit un récit historique, en fait, de bonnes sources ne sont pas suffisantes. Il faut aussi un homme qui soit sérieux, un homme qui soit capable de raconter de manière précise, détaillée. Et regardez au verset 4, il utilise de manière suivie. Et c'est cet homme-là que nous avons avec Luc. C'est à la fois un homme, un médecin, un homme éduqué, un homme qui a d'excellence connaissance du contexte biblique, mais aussi du pays, des coutumes. Et en fait, regardez, il dit que pour rédiger son évangile, il s'est soigneusement informé. Et il y a un archéologue qui était un sceptique vis-à-vis de la Bible, qui est nommé William Ramsay, et qui, au terme de ses recherches, a déclaré que le travail de Luc ne recèle d'aucune erreur sur les 32 régions, 54 villes, 9 îles qu'il mentionne, et que Luc est un historien de tout premier plan. Il dit que son texte est toujours extrêmement précis quand il s'agit de désigner les lieux, les personnes, les événements, les grades, toutes ces choses-là, en fait, qu'il serait difficile de raconter si on n'avait pas des témoins qui sont extrêmement fiables et extrêmement proches. En fait, ça fait déjà pas mal d'arguments en faveur de Luc et de la fiabilité de son récit. Mais nous avons aussi, nous qui sommes croyants, nous qui croyons dans l'autorité de la Bible, un argument qui a encore plus de poids. Et ça, c'est un verset que nous connaissons bien dans 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Et le premier enseignement que nous pouvons retirer de ces versets, c'est que nous sommes devant un récit fiable de la vie de Jésus. Nous sommes devant des informations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer sans crainte. Mais en fait, ça ne répond pas à la question « Pourquoi est-ce que Luc a écrit cet évangile ?» Pourquoi est-ce qu'il y a déjà deux évangiles qui sont là et Luc dit même « Moi, je vais encore en écrire un troisième ?» Une des questions que l'on peut se poser ou que l'on doit se poser quand on aborde un livre de la Bible, c'est finalement, qu'est-ce qui manquerait si ce livre n'était pas là? Pourquoi est-ce que Dieu a suscité l'écriture de ce livre-là? Qu'est-ce qu'il voulait nous communiquer de particulier que nous n'avons pas si nous enlevons le livre de Luc? Dans le tout premier verset, Luc nous dit qu'il veut parler des événements qui se sont accomplis parmi nous. Mais en fait, finalement, quels sont ces événements? Et on en trouve un indice dans le deuxième livre que nous laisse Luc, le livre des Actes. Luc commence ce deuxième livre exactement de la même façon, avec une rapide préface, un prologue. Nous regardons dans Actes 1, au verset 1. Cher Théophile, donc Luc écrit un deuxième livre, il l'écrit à nouveau à ce même Théophile, et en fait il nous montre que le livre de Luc doit être étroitement associé à celui des Actes. En fait, Cher Théophile, dans mon premier livre, donc l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Luc nous dit donc que dans son premier livre, son évangile traite de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner durant sa vie, jusqu'au jour où il est enlevé au ciel sous les yeux des apôtres. Et en fait, voilà, le livre de Luc, c'est ce que Jésus a commencé à faire. Ça ne vous étonne pas ? Qui dit, c'est pas ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il a commencé à faire. Et en fait, déjà, il nous dit que le livre des Actes des Apôtres, ce sera ce que Jésus va continuer de faire par son esprit. Nous avons l'œuvre de Jésus sur terre, et ensuite nous avons l'œuvre de Jésus par son esprit, une œuvre qui se continue encore aujourd'hui. Et donc, Luc et Actes sont rassemblés en un seul livre que l'on pourrait appeler les œuvres de Jésus, ce que Jésus accomplit, le salut accompli par Jésus. Et je voudrais qu'on regarde le plan de l'évangile de Luc. Et là, on va parcourir très rapidement cet évangile ce matin pour en avoir une grande vision. Et ensuite, on aura tout le temps d'aller dans les détails par la suite. Donc, il commence par un prologue. C'est les quatre versets que nous avons lus aujourd'hui. Et le thème de cet évangile, c'est le thème de l'accomplissement. Jésus accomplit le salut promis. Et nous verrons qu'il l'accomplit en venant au monde. Ensuite, nous verrons qu'il accomplit ce salut par sa vie. Et cela comprend deux étapes, l'annonce de son ministère et puis son ministère en Galilée. Il accomplit ce salut par sa mort et sa résurrection. Et nous verrons que ça concerne l'annonce. Le voyage vers Jérusalem sera un voyage d'annonce de ce que Jésus va faire. Et puis, Jésus à Jérusalem, où il accomplit le salut par sa mort et par sa résurrection. Avec cette trame sous les yeux, je voudrais vraiment suivre finalement cette expression, ce mot accompli que Luc affectionne particulièrement. Il le sème tout au long de son évangile et en fait nous livre une trace de ce qu'il veut nous communiquer. Il l'utilise donc, nous l'avons vu dans le premier verset, et on le retrouve dans le même sens dans la deuxième section. Cette section nous parle de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais avant juste de parler de la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, je voudrais revenir un petit peu sur le contexte de cette naissance. Et pour avoir le contexte de cette naissance, je voudrais repartir un petit peu en arrière et revenir aux dernières paroles de Dieu dans l'Ancien Testament, et nous les trouvons dans le livre de Malachie. Nous sommes 4 siècles avant la naissance de Jésus. Le peuple est de retour d'exil. Il a terminé la reconstruction du temple, mais ce n'est pas un peuple libre. Il est sous la domination perse. En fait, il n'y a plus beaucoup de traces du réveil que nous avons pu voir au temps de Néhémie. Le temple fonctionne, les sacrifices ont lieu, mais en fait, le formalisme a remplacé l'adoration vibrante du peuple. La reconnaissance n'est plus là. Il n'y a plus d'enthousiasme pour Dieu. Et cela se sent aussi sur les mœurs du peuple qui se relâchent. Et Dieu parle une dernière fois avant 4 siècles de silence. Quelle est la dernière chose que dit Dieu avant de se taire pendant 4 siècles ? En fait, il annonce un jour de jugement. Un jour de jugement terrible. Et dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 19, il décrit un jour brûlant comme un four où les hommes arrogants seront comme la paille, un jour qui les embrasera pour ne rien laisser. Et voici les derniers mots de Dieu. Dieu annonce un jugement qui ne va rien laisser derrière lui. Mais avant ça, juste avant ça, il dit qu'une autre promesse doit s'accomplir. Et cette promesse, nous la trouvons au premier verset de ce même chapitre 3. Et je vous lis dans Malachie, au chapitre 3 et au verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Deux hommes sont annoncés ici. Le premier qui prépare le chemin du second et le second qui apparaît comme brutalement, soudainement. C'est le Seigneur, le messager de l'Alliance. Autrement dit, c'est le libérateur qui est tant attendu, le Messie qui est annoncé. Jésus va identifier lui-même ces deux personnages. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4 et au verset 11, il nous dit que le premier, c'est Jean-Baptiste qui a ce rôle de préparer le chemin du Messie. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 26, il dit « Mais je suis, moi, le Messie ». Il s'identifie comme ce messager de l'Alliance, le Messie. Une alliance avait déjà été mise en place, des siècles avant, avec Moïse. Une alliance qui avait été gravée sur deux pierres, celle de la loi, et vous vous en souvenez quand nous avons fait notre parcours sur l'Exode. Mais les hommes n'ont jamais pu satisfaire les exigences de la loi. Et même après le réveil de Néhémie, nous voyons que c'est l'échec. Nous voyons que même lorsque le peuple revient à Dieu, au final, c'est l'échec. Et si Dieu regarde à cette alliance qu'il a passée avec Moïse, nous sommes tous condamnés pour le jugement qui est annoncé à la fin de Malachie. Mais il y a une nouvelle alliance qui est annoncée. Et cette alliance est annoncée par les prophètes et notamment par Jérémie. Et elle est citée par l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et je vous propose de lire cette promesse que nous trouvons dans Hébreux 8, au verset 6 et 13. Mais en réalité, Jésus possède un service bien supérieur et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et je continue au verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant « Tu dois connaître le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré ancienne la première. Ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et cette nouvelle alliance doit être établie par un homme qui aura totalement rempli les conditions de la première. C'est-à-dire qu'il n'aura jamais désobéi à la loi. Un homme qui sera sans péché. Cet homme portera sur lui les fautes de tous ceux qui se confieront en lui. Cet homme sera précédé d'un autre homme qui l'annoncera, qui prépare le chemin. Revenons à l'évangile de Luc. Luc 1, verset 20. La naissance de Jean-Baptiste est annoncée à son père, mais il ne peut le croire. Et voici ce qui est dit. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Mes paroles. Et en fait, notamment ici, il fait référence à ce que Dieu dit au travers de Malachie. Mes paroles s'accompliront. Et quelques versets plus tard, Jean naîtra, et contre toute attente, son père le nomme Jean, et il retrouve à cet instant la parole. Quelques versets plus loin, Jésus est né et Marie chante. Elle a cru quand l'ange lui a annoncé la naissance de Jésus. Et voici ce qu'elle dit. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et en fait, la première section est écrite autour d'un double accomplissement de la promesse de Malachie, avec la naissance de celui qui précède le Messie et la naissance de Jésus, le Messie lui-même. Et si nous regardons maintenant la troisième section qui nous parle de l'annonce du ministère de Jésus, Luc met dans cette section en avant trois choses. La première chose qu'il met en avant, c'est la généalogie de Jésus. Et il veut nous montrer par là que Jésus est un héritier légitime du trône de David. Il peut être le Messie. La deuxième chose qu'il met en avant, la tentation au désert. Et il nous montre par là que même dans des situations de tentation exceptionnelles, Jésus est resté sans péché. Satan ne peut l'atteindre. Troisième chose qu'il met en avant, le discours de Jésus qui annonce le programme du ministère de Jésus. Et on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais je voudrais juste en lire quelques mots pour avancer encore là-dedans. Et je lis dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, les versets 16 à 19. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et Jésus vient de lire ce texte d'Ésaïe, mais il ne s'arrête pas là. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Autrement dit, en fait, il est en train d'inaugurer son ministère et il dit qu'il va faire ce qu'il va faire en utilisant cette prophétie. Et il dit que cette prophétie est maintenant accomplie parce qu'il est là. Parce que je suis là, ce que Ésaïe avait dit, c'est maintenant accompli. Et en fait, nous voyons que c'est précisément ce que Jésus fait durant son ministère terrestre. Et nous arrivons donc à la quatrième section. Luc nous parle donc de ce ministère en Galilée. Et nous voyons Jésus qui accomplit concrètement cette prophétie. Il annonce une bonne nouvelle, c'est le mot pour évangile. Il annonce une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui reconnaissent qu'il leur manque quelque chose. Pas les arrogants dont nous a parlé Malachie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces arrogants qui sont jetés comme de la paille dans un four brûlant. Il guérit les cœurs brisés, il délivre les captifs, il rend la vue aux aveugles. Et nous voyons son programme qui se déroule. Le ministère de Jésus en Galilée nous parle des insauvables que Jésus sauve. Un homme qui avait un esprit démoniaque, impur, au chapitre 4. Une femme, oui, les femmes étaient considérées comme ayant un rang inférieur dont on ne s'occupait pas, mais pas Jésus. Un lépreux, au chapitre 5, un homme dont on ne pouvait pas s'approcher. Un paralysé, un homme qui était à la merci de la société puisqu'il ne pouvait pas subvenir par lui-même à ses besoins. Au chapitre 7, c'est un esclave. Et enfin, il ressuscite un mort. Il est venu proclamer une année de grâce. Et on a vu, si vous êtes dans les groupes de maison, le sabbat, et on a vu ce sabbat des sabbats, la 50e année, qui était l'année du jubilé, l'année où on libérait les esclaves, l'année où chacun retrouvait ses terres, l'année où on remettait tous les compteurs à zéro. Et Jésus fait cela. Il proclame un jubilé. Il nous délivre de notre esclavage. Dans la 5e section, Luc nous montre Jésus qui entame son voyage vers Jérusalem. Et cette section commence avec ces mots qui nous disent que Jésus dresse résolument sa face vers Jérusalem. Il sait ce qu'il attend là-bas. Et en fait, toute cette section est à lire à l'ombre de la croix. Dans toute cette section, il va tout le temps rappeler où il va, ce qu'il va faire. Cette section est une annonce de son œuvre. Dans Luc 12, il dit « Il est un baptême dont je dois être baptisé. Il me tarde qu'il soit accompli. » Un peu plus loin, dans Luc 18, Jésus prend les 12 auprès de lui et il leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Quelques heures avant son arrestation, Luc 22, 37, « Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. » Il a été mis au nombre des malfaiteurs. En ce qui me concerne, et ce qui me concerne, est sur le point d'arriver. Dès ce moment, tout pointe vers la croix. Au fur et à mesure qu'il s'approche de Jérusalem, il y a une tension qui grandit. Jésus se révèle de plus en plus comme le Messie promis, mais pas un Messie politique. Les Juifs attendaient un roi fort, un nouveau David, quelqu'un qui vienne unifier le pays, qui se dresse contre les opposants pour le libérer. Mais de plus en plus, il se révèle comme le Messie souffrant, le serviteur, celui qui vient pour laisser sa vie en rançon pour le péché. Et ça nous conduit vers la dernière section. Jésus arrive à Jérusalem. Et Luc nous décrit son arrivée à Jérusalem comme l'entrée d'un roi. Il est sur un âne, la monture des rois. Sur son passage, la foule l'acclame, dépose des manteaux sous ses pieds. Il chante « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Et ça, c'est une citation du psaume 118. Et ce psaume fait partie de cette longue série de psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques, c'est-à-dire qu'il nous parle à l'avance du Messie qui est à venir. Et ce psaume, au verset 22, nous dit que le Messie sera rejeté par les dirigeants du peuple. Que malgré, finalement, ils se servent du psaume pour l'acclamer comme roi, sans se rendre compte que le psaume qu'il cite est un psaume qui dit que le Messie sera rejeté. Et c'est terriblement ironique de voir Jésus qui rentre dans Jérusalem de cette façon-là. Quelques jours plus tard, il sera effectivement condamné, crucifié. Mais Luc continue son récit, il nous parle de sa résurrection. Et il clôture en nous utilisant une dernière fois ce terme d'accomplissement dans la bouche de Jésus. Et en fait, ce sont les dernières paroles de Jésus avant son ascension. Et je vous invite à les lire au chapitre 24, dans les versets 44 à 49. Puis il leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il était écrit, et il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait, qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance, le pardon des péchés, serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, quant à vous rester dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et en fait, Jésus est en train d'accomplir d'expliquer le « c'est accompli » de la croix, que Luc ne cite pas. Il dit que finalement, la loi, les prophètes, les psaumes, tout l'Ancien Testament préparé, annoncé la venue de Jésus. Que Jésus est venu t'annoncer tout, est venu accomplir tout ce qui était prévu par l'Ancien Testament. Comme l'a souligné Luc, l'Évangile nous parle de ce que Jésus a commencé de faire, parce que Jésus continue son œuvre, aujourd'hui, en étant le médiateur d'une nouvelle alliance, parce que bientôt il reviendra achever son œuvre. Je voudrais conclure avec vous. Dans un premier temps, nous avons regardé la personne de Luc, la façon dont il a travaillé, et cela nous a montré combien nous pouvons nous appuyer avec certitude sur ce texte. L'Écriture est fiable, elle ne peut pas nous tromper, elle est sans erreur. Ensuite, on a survolé à vraiment très haute altitude, mais je vous assure qu'on aura le temps de revenir sur chaque texte avec beaucoup plus de temps, le contenu de ce livre avec la perspective que Jésus est venu accomplir le salut promis par Dieu. Luc n'est pas en train de nous parler d'un homme ordinaire. Il est en train de nous parler de celui dont tout l'Ancien Testament nous parle, depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Tout parle de lui, tout prépare, tout annonce sa venue. Il a renoncé à sa condition divine, il est venu accomplir le salut préparé de toute éternité pour nous. Ce que nous dit Luc, c'est que Jésus n'est pas le plan B, C, D ou D' de Dieu pour nous sauver. Il est le plan de Dieu. Il est la bonne nouvelle. Il est l'évangile de Dieu pour nous sauver. Mais finalement, pourquoi un évangile de plus? Luc était un grec, un païen, un non-juif. Et il veut s'adresser à tous ceux qui sont comme lui. Tous ceux qui, comme nous, n'avons pas baigné dans la tradition juive depuis des générations. Luc veut nous montrer quelque chose d'essentiel. C'est que notre foi est rationnelle. Notre foi n'est pas basée sur des idées ou sur une philosophie. Elle est basée sur des faits tangibles, sur des faits concrets, sur des faits vérifiables dans l'histoire. Dominique Anger, qui est professeur de Nouveau Testament, fait remarquer que l'on a souvent tendance à rechercher ce qui est en commun avec les grandes religions monothéistes. Et souvent, ce qu'on regarde, c'est que finalement, elles puisent leur source dans l'Ancien Testament. Les grandes religions monothéistes nous parlent finalement de ce Dieu créateur. Elles nous parlent d'Abraham, etc. Mais dans le judaïsme, l'Ancien Testament est commenté. En fait, c'est un mode de vie. On ajoute des choses pour l'actualiser. Et il y a différents courants avec le Talmud de Babylone ou avec celui de Jérusalem. L'Ancien Testament est commenté et on l'adapte à notre mode de vie. Dans l'islam, l'Ancien Testament est remplacé. Chaque nouvelle révélation remplace la précédente. Et donc le Coran a le dernier mot. Et donc Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dans le christianisme, l'Ancien Testament est accompli par Jésus. Ce que l'Ancien Testament annonce est réalisé par Jésus. Ce que nous allons découvrir, c'est que Jésus est le temple, qu'il est le sacrifice, qu'il est les rites, la Pâque, qu'il est tout ce que le Testament a annoncé pour notre salut. Jésus accomplit tout cela, Jésus est tout cela. Qu'est-ce que ça change pour moi? Qu'est-ce que ça change pour vous ce matin? N'avez-vous jamais de doute? Peut-être vous dites-vous que vous n'avez jamais ressenti la présence de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais vécu d'expérience spirituelle. Alors ce matin, je voudrais vous dire que tout cela peut être une grâce que Dieu accorde, mais que ça ne peut pas être le fondement de la foi. Ça peut être une grâce que Dieu accorde, mais cela ne peut pas être le fondement de la foi. Ma foi, votre foi, ne peut pas être fondée sur ce que vous êtes, sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous faites. Votre foi ne peut pas être basée sur ce que vous êtes, sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous faites. Notre foi ne peut être fondée que sur un seul fondement, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a accompli ce qui a été annoncé pendant des siècles et des millénaires de révélation divine. Jésus-Christ a rassemblé sur sa vie tout ce qui avait été annoncé pendant des milliers d'années. Tout s'est concentré sur lui. Toutes les promesses ont été accomplies en lui et pour nous. Notre foi est fondée sur l'Évangile, sur ce que Jésus a fait. Et c'est ce que nous voulons découvrir peu à peu, ensemble. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie de foi. Peut-être que vous êtes sceptique aujourd'hui. Peut-être que vous êtes converti. Peut-être que vous avez cru en Christ, mais que votre foi n'est pas sûre et solide. Et ce que nous voulons découvrir peu à peu dans cet évangile, c'est Jésus. Jésus qui a fait tout ce qu'il y avait à faire pour que nous soyons sauvés, pour que notre foi soit enrichie, pour que nous grandissions dans sa connaissance et que nous soyons transformés ensemble par sa vie. Je voudrais encore prier avec vous. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cet évangile de Luc. Et nous voulons te remercier que nous puissions aujourd'hui lire ta parole, qu'elle nous soit parvenue. Merci de l'avoir protégée, gardée pendant tous ces siècles pour qu'elle arrive jusqu'à nous, que nous puissions l'ouvrir et que nous puissions t'entendre nous parler au travers d'elle. Et tu vois, nous désirons pendant ces prochains mois contempler cet évangile, apprendre à te connaître, découvrir ce que tu as fait, découvrir combien ton salut est parfait, combien nous n'avons rien à y ajouter, que tu as tout accompli pour nous. Fais grandir notre foi pour que nos vies soient transformées par cet évangile, par ce que tu as fait. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen.